podcast RFHT.
Bonjour à tous. Nous revenons vers vous pour un nouveau sujet sur l'hémophilie acquise, anomalie acquise de la coagulation se traduisant par un déficit acquis et isolé en facteur 8. Je suis le professeur Hervé Lévesque, interniste au CHU de Rouen, dont un de mes thèmes de recherche porte sur l'hémophilie acquise. J'ai coordonné le registre prospectif français SACHA, co-coordonné le registre européen ITCH2, qui a regroupé près de 500 cas d'hémophilie acquise, et mis en place dans le cadre d'un PHRC, la première étude prospective randomisée contrôlée, comparant deux schémas thérapeutiques d'immunosuppresseurs au cours d'une hémophilie acquise, dont l'étude est finie et les résultats sont en cours de publication. Dans ce podcast, nous allons nous placer successivement dans la situation du clinicien qui se pose la question devant un syndrome hémorragique des diagnostics alternatifs à envisager par l'interrogatoire et l'examen clinique, puis dans le cas du biologiste qui, sollicité par son collègue clinicien, doit lui répondre sur l'allongement isolé d'un TCA. Pour tenter de répondre à ces questions, nous échangerons avec le docteur Benoît Guillet, médecin hématologue, spécialisé en hémostase bioclinique et médecin coordonnateur du Centre de maladies rares sur les maladies hémorragiques de Rennes, dont la principale thématique de recherche concerne le facteur 8 et l'hémophilie, et en particulier l'hémophilie acquise. Benoît, je te passe tout de suite la parole en insistant, comme tu le sais, sur l'importance de la collaboration clinicien-biologiste pour gérer ces patients souvent difficiles à prendre en charge.
Merci Hervé. Pour commencer, peux-tu nous indiquer si le diagnostic clinico-biologique de l'hémophilie acquise est habituellement difficile ou facile finalement ?
Le diagnostic est le plus souvent aisé devant un tableau hémorragique caractéristique avec des ecchymoses spontanées des membres ou du tronc, souvent étendues, spontanées, sans antécédent personnel ou familial de syndrome hémorragique. Et cela survient le plus souvent chez un sujet âgé ou très âgé, avec à la biologie un TCA allongé. Cependant, le diagnostic tarde parfois à être fait. Par exemple, dans le registre récent espagnol, un diagnostic moyen de 17 jours est constaté. Dans le registre ITCH2, le délai entre les premiers signes hémorragiques et le diagnostic était de 3 jours, mais chez 20% des patients, le délai variait entre 7 et 30 jours, et dans 9% des cas, il était même supérieur à 30 jours.
Existe-t-il des pièges qui peuvent être responsables d'une errance diagnostique pour l'hémophilie acquise ?
Effectivement, il existe un certain nombre de pièges, non pas tant liés à la rareté de la maladie et de fait à sa méconnaissance, mais surtout parce que le syndrome hémorragique est rapporté à une autre cause, ou le TCA non réalisé, ou encore son résultat négligé. Ainsi, dans le registre espagnol de 98 cas, un tiers des patients recevaient au moment du diagnostic un anti-agrégant plaquettaire, un antivitamine K ou un anticoagulant oral direct. Dans le registre chinois CARE, le diagnostic n'était évoqué d'emblée lors du premier avis hospitalier que dans 53% de cas. Ceci est en grande partie lié au fait que les manifestations hémorragiques sont à tort rapportées à d'autres étiologies ou facteurs favorisants, tels la prise d'un antithrombotique. Mais ils peuvent aussi être rapportés à d'autres causes, prise d'antiagrégants plaquettaires chez le sujet âgé, fragilité cutanée liée à l'âge ou à certaines maladies. L'exemple classique est le syndrome des barres, syndrome qui survient chez le sujet âgé, agité, qui traumatise ses membres sur les barres du lit mises pour éviter les chutes et donc avec la constatation d'ecchymose du membre supérieur ou du membre inférieur.
Mais il existe d'autres syndromes cliniques qui comprennent des saignements anormaux, inhabituels, pouvant même parfois être majeurs. Peux-tu essayer de nous les décrire ?
Alors effectivement, comme tu le sais, l'hémophilie acquise survient volontiers chez le sujet âgé, dont certains sont volontiers dénutris. De fait, un diagnostic doit d'emblée être évoqué, c'est celui de la carence en vitamine C, anomalie fréquente même dans les pays développés. En effet, comme tu le sais, nous n'avons pas de stockage dans l'organisme, alors que les apports quotidiens nécessaires sont d'environ 150 à 200 mg par jour, soit l'équivalent de 5 fruits et légumes par jour. Ainsi, la carence est-elle fréquente dans la population générale, notamment dans certaines populations ? En 1999, 70% des SDF en Île-de-France avaient une carence en vitamine C. 20% des patients hospitalisés en service de médecine interne avaient un taux bas de vitamine C. Et enfin, 45% des hommes et 35% des femmes dites dans des populations défavorisées au Royaume-Uni étaient considérés comme carencés en vitamine C. Un des facteurs favorisant classique, c'est la baisse des apports liés au mode de vie, notamment chez les sujets âgés, chez les hommes seuls, chez les sujets alcooliques, chez les gens qui ont un régime alimentaire trop restrictif ou qui sont dénutris, ou parfois il peut y avoir une baisse de l'absorption dans certaines maladies inflammatoires de l'intestin, la maladie de Whipple, la maladie de Crohn, la maladie cœliaque, ou encore, et ça c'est non rare, lorsqu'il y a des augmentations des besoins, la croissance, l'allaitement et la grossesse. Et donc le diagnostic de scorbut, car c'est bien ça qu'il s'agit, c'est un diagnostic qui est surtout clinique, où il y a certes une asthénie, une anorexie, qui est non spécifique, mais surtout des signes hémorragiques. Classiquement, c'est un purpura pétéchial centré par un poêle, mais on peut voir de volumineuses ecchymoses, des hématomes, des hémorragies digestives et même des hémarthroses. Il existe la classique gingivite hypertrophique et hémorragique, la parodontolyse avec la chute des dents qui est bien décrite par les auteurs anciens, mais ces signes sont souvent tardifs. Et puis, peuvent se voir d'autres signes cutanés, l'hyperkératose folliculaire, des poils en tire-bouchon, des œdèmes des membres inférieurs, une alopécie. La biologie, si elle est réalisée, elle pourra montrer d'autres signes de carence, une anémie ou une hypoalbuminémie. Et si on dose le taux de vitamine C, il sera toujours effondré, inférieur à 2 mg, pour une normale entre 5 et 15 mg. Un autre diagnostic qu'il faut savoir évoquer, même si je ne suis pas certain de son existence, c'est le classique purpura psychogénique ou syndrome des ecchymoses douloureuses de Gardner et Diamond, qui survient chez la femme jeune avec des comorbidités psychiatriques. Là, le tableau est celui de poussée ecchymotique précédée de prodrome, avec des signes inflammatoires locaux, des brûlures, une induration, des douleurs. Et l'ecchymose survient 24 à 48 heures après, et elle disparaît en environ 15 jours. Et comme tu sais, la biologie dans ces cas-là est strictement normale. Enfin, au cours de l'hémophilie acquise, les ecchymoses sont volontiers diffuses, mais comme tu le sais, elles sont parfois localisées, et le clinicien pourra évoquer d'autres diagnostics, l'amylose en cas d'hématome périorbitaire. Lorsque c'est un hématome des doigts, on parlera d'apoplexie veineuse paroxystique. Ou encore, on peut avoir tout bêtement, lorsqu'on a une insuffisance veineuse superficielle et des varices, des ecchymoses spontanées des membres inférieurs.
Merci pour tous ces éléments. Et parmi les traitements fréquemment pris par les patients, pour toi, lesquels méritent une attention clinique particulière? En dehors, bien sûr, de ceux bien connus pour faire saigner, comme les antiagrégants plaquettaires, les anticoagulants et les AINS.
Comme tu le soulignes, un des pièges diagnostiques qui est souvent une source de retard pour le diagnostic d'hémophilie acquise, c'est la prise des antithrombotiques. Cependant, il y a une classe médicamenteuse qui peut donner des manifestations hémorragiques, à savoir les IRS, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Il s'agit d'une classe médicamenteuse qui est largement prescrite et dont le risque hémorragique est négligé par les cliniciens. Dans une méta-analyse récente sur le sur-risque hémorragique chez les patients sous AOD, les IRS ont un sur-risque hémorragique identique aux antiagrégants plaquettaires ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Chez des patients sous AOD pour une fibrillation ou pour une pathologie valvulaire, le risque hémorragique est multiplié par 2 sous IRS et notamment sous paroxétine. Enfin, les IRS seuls peuvent donner des ecchymoses sous-cutanées proches de celles observées au cours des hémophilies acquises. Le mécanisme d'action serait l'interférence des IRS avec la sérotonine plaquettaire. Et maintenant, je vais te poser une question. Benoît, on a parlé des antithrombotiques qui interfèrent. Mais finalement, on a beaucoup parlé des anticoagulants et des AOD, mais comment interpréter un allongement de TCA chez un patient qui est sous AOD?
Alors, voici tout d'abord ce qu'est un temps de céphaline avec activateur, qui est un TCA. Cette définition nous servira pour la suite de notre entretien. Il s'agit d'un test évaluant globalement la coagulation plasmatique sur sa voie endogène. Ce test est phospholipide dépendant et calcium dépendant. Dans un premier temps, le sang est décalcifié au moment du prélèvement sanguin par le citrate contenu dans les tubes. Le plasma est ensuite récupéré après centrifugation. Et dans celui-ci est introduit au laboratoire un activateur spécifique de la voie endogène, des phospholipides qui avaient été éliminés initialement par la centrifugation, donc des phospholipides comme la céphaline, et enfin du calcium. À ce moment-là, le chronomètre est déclenché qui s'arrêtera quand les premières traces de fibrine seront détectées. Le TCA explore ainsi les cascades enzymatiques de la voie endogène qui va de la phase contact incluant le facteur 12, qui est activé par l'activateur spécifique, puis le facteur 8, 9 et 11 qui arrivent ensuite sur le tronc commun qui comprend, comme tu le sais, le facteur 2, le 5, le 10 et le fibrinogène jusqu'à la formation des premières traces de fibrine détectées par l'automate. Ainsi, le TCA est défini comme allongé quand le ratio du TCA malade sur TCA témoin est supérieur ou égal à 1,2. En théorie, tout ce qui perturbe chacune de ces étapes va allonger un TCA, donc également des médicaments anti-thrombine ou anti-facteur 10A, comme sont les AOD. Mais il existe plusieurs réactifs différents pour le TCA, variant en particulier par leur activateur et le type de céphaline. Ceci modifie leur sensibilité intrinsèque au déficit en facteur de la coagulation, aux différents inhibiteurs par anticorps ou médicamenteux et aux antiphospholipides. Donc, pour répondre à ta question précisément, il faudrait répondre pour chaque réactif existant, ce qui serait trop long ici. D'autre part, les AOD ont la propriété de perturber différemment le TCA. Ainsi, le rivaroxaban et le dabigatran allongent le TCA, mais l'intensité est assez variable avec les concentrations similaires, sans corrélation linéaire fine. Cependant, on peut affirmer que pour des concentrations très élevées, évoquant un surdosage en AOD, le TCA s'allonge beaucoup. À l'inverse, on peut dire qu'avec ces deux AOD, si on constate un TCA très allongé, il faut suspecter un surdosage à explorer ou alors une autre anomalie associée. L'apixaban est le seul de ces trois AOD qui ne modifie pas le TCA. Pour des concentrations thérapeutiques, le TCA reste inférieur à 1,2, mais là encore, quand un surdosage apparaît, le TCA commence à s'allonger. Ce dernier AOD est intéressant d'ailleurs pour les patients présentant à l'état basal une anomalie de la voie endogène comme liée à une hémophilie par exemple ou à une hépatopathie. Profitons de cet entretien avec toi pour avoir des nouvelles de l'analyse statistique de l'étude CREA. Je rappelle que tu es le coordonnateur de ce PHRC national. Cette étude avait pour objectif de comparer pour l'hémophilie acquise deux bras d'immunosuppresseurs, corticoïdes et cyclophosphamides versus corticoïdes et rituximab.
Effectivement, l'étude est achevée et est en cours de publication. 108 patients ont pu être inclus et randomisés avec une étude que nous avons dû arrêter avant son terme. On avait prévu 162 patients au départ pour des raisons éthiques du fait des recommandations récentes qui proposent en cas de facteur dit de bon pronostic, à savoir un taux de facteur 8 dosable et un titre d'inhibiteur inférieur à 20 unités bêta, c'est quand même plus de 50% des malades, de proposer d'emblée une corticothérapie seule et de n'envisager une association avec un immunosuppresseur qu'en cas d'échec ou de facteur de mauvais pronostic au diagnostic. En bref, dans CREA, les deux schémas thérapeutiques, c'est-à-dire corticoïdes plus cyclophosphamide péros ou corticoïdes plus rituximab, donnent les mêmes résultats en termes de rémission ou de délai de rémission. Il y a une tendance forte à un risque accru de complications infectieuses sous rituximab, ce qui n'était pas attendu, mais c'est à la limite de signification et de fait, nous avons refait de manière totalement indépendante l'analyse statistique, d'où le retard à la publication, qui confirme le manque de puissance de l'étude pour préciser ce point important. Néanmoins, les résultats me paraissent excessivement importants pour cette première étude prospective randomisée et nous allons publier dès que possible l'étude. Benoît, je vais continuer à t'interroger pour cette fois-ci se solliciter sur l'interprétation du TCA, examen important des examens biologiques de débrouillage de la coagulation et qui malheureusement, je dois le dire, est trop souvent négligé par les cliniciens. Peux-tu nous rappeler brièvement les valeurs normales et à quel moment être réellement interpellé devant un TCA allongé ?
Comme indiqué plus tôt, mais il est vraiment très important de le répéter plusieurs fois, la valeur normale d'un TCA est un ratio du TCA malade sur un TCA témoin strictement inférieur à 1,2. Pour tout résultat supérieur à ce seuil, il existe une anomalie qui interfère avec le TCA. Le premier réflexe alors à avoir est de regarder le temps de quick ou taux de prothrombine. Le seuil normal du TP ou taux de prothrombine, est 70%. S'il est normal, il s'agit d'un TCA allongé isolé. L'anomalie est donc strictement sur la voie endogène, sauf deux exceptions notables pour lesquelles le TCA est seul et sensible, même si cela varie avec les réactifs, et non le TP. C'est la présence d'un antiphospholipide et un traitement par héparine. Alors, ces deux anomalies affectent pourtant l'ensemble de la coagulation plasmatique. Mais cette différence de sensibilité TCA-TP est liée pour la première cause, les antiphospholipides, à la plus faible quantité de phospholipides contenue dans les réactifs du TCA par rapport au TP. Et pour la deuxième cause, je rappelle l'héparine, la présence d'un inhibiteur de l'héparine dans le TP qui est absent dans le TCA. La deuxième situation est le TCA allongé avec TP diminué, donc inférieur à 70%. Dans ce cas, il s'agira d'une anomalie du tronc commun au niveau donc des facteurs 2, 5, 10 et fibrinogènes. Le TP sera cependant plus sensible à une anomalie du tronc commun, raison pour laquelle certains déficits mineurs ou modérés, isolés ou multiples du tronc commun ne seront dépistés que sur un TP bas. Pour répondre à ta deuxième question, quand être interpellé par un TCA allongé, en dehors d'un traitement pouvant l'altérer, le TCA allongé doit être interprété suivant le contexte clinique, soit hémorragique, donc ça va concerner tous les déficits de la voie endogène, soit thrombotique avec les antiphospholipides.
Merci pour cette précision. Je pense qu'on va limiter notre propos au TCA allongé avec un temps de quick considéré comme normal, avec finalement à l'interrogatoire deux situations cliniques, soit c'est découvert fortuitement, soit c'est associé à des manifestations cliniques, ces dernières pouvant être hémorragiques ou thrombotiques. On a beaucoup parlé de manifestations hémorragiques, je pense qu'il faut d'emblée parler du syndrome des antiphospholipides, pour tout nous en rappeler la définition, les critères diagnostiques et l'intérêt ou non du TCA dans le dépistage d'un anticorps antiphospholipide.
Un syndrome des antiphospholipides, qu'on appellera SAPL, est une maladie auto-immune liée à la présence d'auto-anticorps, antiphospholipides, qui sont responsables de thromboses veineuses et ou artérielles. Sa première description remonte à 1980 par Soulia et Boffa, qui le décrivent avec l'association de fausses couches spontanées multiples de thrombose, d'un lupus et d'un anticorps qu'ils ont appelé alors lupus anticoagulant. Car cet anticorps altère les tests de coagulation, le TCA. Il fut totalement décrit 5 ans plus tard par Harris et Hughes, raison pour laquelle il peut également être appelé syndrome de Hughes. Les SAPL peuvent être secondaires à de nombreuses pathologies comme le lupus, des cancers, des syndromes lymphoprolifératifs ou myéloprolifératifs et des infections. Ou alors, le SAPL peut être primaire, c'est-à-dire sans autre pathologie associée. Sa définition précise comprend l'association avec la présence biologique d'un antiphospholipide avec au moins une des deux anomalies cliniques suivantes, soit thrombose veineuse ou artérielle ou microvasculaire, soit ou et ou morphétale inexpliquée, fausse couche spontanée, naissance prématurée par éclampsie ou HELLP syndrome. Pour diagnostiquer définitivement un SAPL, il faut que les antiphospholipides initialement dépistés soient présents pendant au moins 12 semaines. Il est donc nécessaire de les contrôler à 3 mois. Ces antiphospholipides peuvent être de deux groupes, ceux qui altèrent le TCA qu'on appellera des anticoagulants circulants ou ACC, non pas parce qu'ils font saigner, mais parce qu'ils perturbent la coagulation in vitro, le TCA. Et le groupe qui ne peut être d'antiphospholipides qui ne peut être détecté que par des tests immunologiques tels que les anticardiolipides et les anti-bêta-2 GP1. Alors, quel est l'intérêt du TCA dans ce cadre? Le TCA est un test de dépistage des antiphospholipides. Son allongement doit conduire à son exploration, qui ici comprend l'indice de Rossner, qui est basé sur un mélange malade plus témoin, qui recherche un effet inhibiteur du plasma malade sur le TCA d'un plasma témoin. Si cet indice de Rossner est positif, l'anticorps sera appelé ACC. Et donc, si c'est positif, l'exploration sera complétée par l'analyse de la spécificité de cet anticoagulant, avec notamment le DRVVT, et sinon déjà fait, la recherche par des méthodes immunologiques, des anticorps anticardiolipides et des anticorps anti-bêta-2 GP1.
Merci Benoît sur ces précisions. Revenons à notre TCA allongé. Finalement, pour le clinicien, quand un patient lui est adressé pour un TCA allongé, quelles sont les données anamnestiques importantes à recueillir et notamment quelles sont les questions primordiales à poser aux patients?
Alors, l'interrogatoire est ici majeur. Il faut donc prendre le temps de le faire car il peut permettre de distinguer très rapidement une anomalie acquise ou alors constitutionnelle. Il faut donc rechercher des antécédents hémorragiques personnels, spontanés ou provoqués par des gestes invasifs et si présents, quand ceux-ci sont apparus. Un bon interrogatoire permet souvent de comprendre que finalement le phénotype hémorragique est très récent et que la cause ne peut être qu'acquise, comme par exemple chez une femme de 75 ans admise aux urgences pour un hématome du psoas associé à une large ecchymose du membre supérieur, sans traitement particulier et qui ne rapporte aucun autre antécédent hémorragique comme des règles normales et l'absence de saignement anormal lors de chirurgies précédentes, par exemple une prothèse de hanche 2 ans auparavant. Le TCA est isolément allongé, on doit alors évoquer très rapidement une hémophilie acquise. L'interrogatoire doit également rechercher toute prise de médicaments pouvant faire saigner, comme tu les as évoqués tout à l'heure. Enfin, les antécédents hémorragiques familiaux doivent également être recherchés.
Donc finalement, après l'interrogatoire, quelles sont les principales hypothèses à avancer devant un TCA allongé? Et alors, comment confirmer ces hypothèses?
Les principales hypothèses à évoquer devant un TCA isolément allongé sont finalement très simples. Soit il s'agit d'un déficit d'un facteur de la voie endogène, soit d'un inhibiteur du TCA. Alors pour les déficits, ce sont ceux qui font saigner, comme le facteur 8, l'hémophilie A, le facteur 9, l'hémophilie B, et le facteur 11. Mais aussi ceux de la phase contact, comme le facteur 12, mais qui ne sert à rien de doser, car il ne fait ni saigner ni thromboser. L'inhibiteur qui perturbe le TCA peut être un médicament, typiquement l'héparine, mais aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, les AOD avec rivaroxaban et dabigatran. Ou alors, il s'agit d'un auto-anticorps, comme un anticorps anti-facteur 8 pour l'hémophilie acquise, qui sera alors accompagné d'un déficit en facteur 8, ou d'un antiphospholipide. En conclusion, un TCA allongé s'interprète nécessairement avec la clinique, soit hémorragie. On évoquera alors un déficit ou un inhibiteur médicamenteux ou par auto-anticorps, soit thrombose, on évoquera alors fortement un antiphospholipide. Pour les rechercher, le laboratoire fera une recherche d'inhibiteurs par mesure du TCA, d'un mélange du plasma malade avec le plasma d'un témoin, et puis un dosage, facteur 8, 9 et 11.
Merci Benoît sur ces précisions, notamment sur l'exploration et l'interprétation d'un TCA allongé. Une des étiologies qui est souvent évoquée, c'est la maladie de Willebrand. Et de fait, on a assez peu parlé du syndrome de Willebrand, qui donne, comme tu le sais, surtout des hémorragies des muqueuses, des saignements post-opératoires, avec une situation particulière qui intéresse beaucoup les internistes, qui est le syndrome de Willebrand acquis, dont la forme auto-immune, bien qu'exceptionnelle, pose des questions similaires à celles des hémophilies acquises. Et on fera probablement un podcast spécifique sur ce sujet, car c'est une situation complexe pour laquelle il y a peu ou pas de recommandations d'experts. Merci pour votre attention.
Merci.
Podcast RFHT.